L'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 51 à 58 pour notre méditation d'aujourd'hui. Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Au nom de Jésus. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? Demandaient-ils. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos ancêtres, qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Amen. Chers amis, je vous ne cache pas que face à ce texte prévu par le lectionnaire, pour ce dimanche, et ça tombe à pic, je suis un peu gêné pour deux raisons précises. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre premier culte en présentiel après quelques mois de confinement. Et par précaution et par souci de sécurité sanitaire, nous, je mets le nous entre parenthèses et le consistoire, avons décidé de ne pas organiser la Sainte Cène pendant quelque temps, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les choses retourneront plus ou moins à la normale. Or, là, nous tombons sur un texte qui coïncide justement sur la question de la Sainte Cène, du corps du Christ, du sang du Christ qu'il nous donne. La deuxième raison qui me chagrine un peu, qui me gêne plutôt, quand j'ai mis les pieds dans les pubs, j'avais promis devant la commission de recrutement et devant les pubs que je devrais, je mets au conditionnel, être le plus neutre possible en matière de position théologique, vu que nous avons plusieurs courants théologiques dans notre communauté. Ce qui fait le nom des protestants unis. Ce n'est pas pour rien qu'on est protestants unis de Belgique. Mais ici, je ne saurais tenir ma promesse envers les pubs, car le texte est trop clair. Je dirais même pas besoin de faire des explications en plus pour essayer de donner un soi-disant un sens spirituel ou symbolique à ce texte. Qu'on le veuille ou non, tout pasteur, tout théologien sont obligés de prendre position un jour, qu'ils le veuillent ou pas. Et donc, faire une gymnastique théologique face à un texte pareil, pour moi, n'est pas honnête et ce n'est pas du tout possible. Et je crois que si nous nous efforcerons encore un peu plus à trouver une position consensuel face à ce genre de texte, nous allons encore causer plus de mal que du bien et de tordre la parole de Jésus. Hélas, nous avons un texte devant nous qui a tant divisé les églises depuis que les églises existent. Les frères et sœurs en Christ aussi sont divisés jusqu'à aujourd'hui. Même si j'avais prêché sur la communion des saints dimanche passé, Là, nous sommes confrontés à un obstacle de taille. Et nous ne sommes pas les premiers à être divisés. Car, regardez le texte, à la fin du chapitre 6, même si ce n'était pas notre texte, notre lectionnaire, à la fin du chapitre 6, il est dit que beaucoup de ses disciples l'ont abandonné avec un grand regret. Je souligne bien, parmi les disciples du Christ, ils l'ont abandonné. Ils aimaient bien Jésus, mais là, ce qu'ils viennent d'entendre, c'est trop. Mon corps, la chair, mon sang est une boisson. Qui peut entendre ce genre de paroles? Voici ce qu'ils avaient dit au verset 60. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Et ce qui est étonnant, Jésus ne les a pas retenus. On aurait dû attendre un Jésus. Allez, mes amis, ne partez pas, je vais vous expliquer. Non, il ne les a pas retenus. Si vous lisez bien le texte, objectivement parlant. En essayant de les expliquer la chose. Et cette attitude de Jésus pourrait nous choquer. Car au verset 52, les Juifs se querellaient. Ils n'osaient pas parler à Jésus, mais entre eux. Ils se querellaient entre eux et se disaient, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? En d'autres termes, ils voulaient une explication de la part du maître, et c'est normal. Mais étonnamment, il ne leur donne aucune explication. Pour la première fois, Jésus ne répond pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne fait que marteler ce qu'il a dit, à la limite un peu entêté. Il signe et il persiste. Ici se réalise, je crois, la parole que Jésus avait dit dans l'évangile de Matthieu, où il est dit « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi le sang, les gens de sa maison. » C'est Jésus qui dit cette phrase. La parole de Jésus, alors, tranche. Il n'y a pas de position neutre. Et il semble nous déstabiliser. C'est pour cela que je vous ai dit, je suis désolé, moi aussi je dois prendre position, puisque le maître lui-même, il était clair, plus que clair. Et je prends justement cette phrase de Jésus dans Matthieu, parce que dans la grande famille des églises protestantes, les lectures sur ce passage sont assez polémiques, très polémiques même. Il y a ceux qui vont lire ce texte de façon métaphorique. Certains vont dire « non, c'est symbolique, il ne faut pas le comprendre textuellement parlant, c'est très symbolique. » Et là, ces gens-là, ils n'ont pas tort dans leur raisonnement. Ils suivront la même logique de ces Juifs qui ont été choqués en se posant la question « mais comment est-ce possible de donner sa chair ?» C'est normal que ces gens-là essaient de détourner le texte en fonction de leur compréhension humaine. C'est logique, c'est compréhensible. En quelque sorte, ils attendaient de Jésus pour leur dire « Eh, ne vous inquiétez pas les gars, c'est pas du tout vrai ce que je dis, c'est juste une image. » Oui, cette lecture symbolique, métaphorique, est plus raisonnable et plus buvable. Mais elle n'est pas biblique. Je suis désolé. Et ce qui me dérange encore dans cette lecture symbolique, métaphorique, qui arrangerait notre raisonnement intellectuel, comment se fait-il que Jésus répète 4 fois la même phrase? 4 fois. C'est fait exprès. Et il répond avec force, il faut absolument que vous mangiez mon corps et buviez mon sang, sinon vous n'aurez pas la vie. C'est clair, non? Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, celui-là, il aura la vie éternelle. Il n'y a pas d'explication à cela. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Point barre. Et c'est compréhensible si tu ne peux pas le croire parce que ça nous choque. Et de plus, le verbe manger annoncé dans nos versions françaises sont encore plus gentilles. C'est un peu plus lisse, polissé. Mais j'ai regardé le texte grec, c'est encore pire. Il parle de croquer. Celui qui croque mon corps. Vous imaginez cette image? C'est pas juste manger, voilà, une image. C'est vraiment, il y a une action réelle. Croquer, celui qui dévore mon corps, celui qui consomme mon corps, il aura la vie éternelle. Alors c'est clair, trop clair même. Alors la question qui se pose, finalement, qu'est-ce qui choque notre raisonnement dans ces paroles de Jésus? Ce qui nous choque, c'est que le spirituel et le physique ne devraient pas être compatibles. Nous avons mis toujours une frontière entre le visible et l'invisible. Mais mes amis, pourquoi Jésus alors doit s'incarner? Je vous pose la question. Justement, dans son incarnation, c'est-à-dire que Jésus qui est devenu homme, il a rendu possible l'union du divin et de l'humain en Jésus-Christ. Donc ces deux mondes se sont unis. C'est plus que symbolique, c'est plus que métaphorique, c'est du réel, c'est palpable, c'est existentiel, l'union du divin et de l'humain. Notre éducation humaine a mis une frontière infranchissable entre la physique et la métaphysique. Mais Jésus ici détruit complètement cette frontière. Il parle de la vie éternelle, mais en même temps, il parle de nourriture et de chair. Logiquement parlant, ces deux réalités ne devraient pas aller ensemble. Comment on peut parler de vie éternelle dans le ciel, auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et quel est le lien avec cette vie et ce pain et le vin que nous prenons à la Sainte Cène? Vous imaginez, il y a un décalage énorme. Mais Jésus a dit, celui qui mange et qui boit, il aura la vie là-haut. Ça me fait rappeler un peu l'image du serpent d'airain dans le désert. Quand les enfants d'Israël ont été croqués par le serpent, les serpents, ils ont crié vers Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu lui a dit, construis, mets un poteau et mets le serpent en cuivre devant. Celui qui regarde, il sera sauvé. Et celui qui ne veut pas regarder, il sera mort. Vous imaginez si on était à la place de ces enfants d'Israël, qui auraient cru à ce genre de supercherie? Il suffit de regarder, je serai guéri. Mais quel est le lien? Je ne touche même pas. Je ne bois même pas une potion médicale. Et oui, c'est ça la foi. La foi, c'est un sursaut vers l'invisible, vers ce qu'on ne voit pas. Mais c'est de s'accrocher à ce que Dieu dit, mais pas à ce que nous voyons. C'est ça le problème dans la foi. Mais c'est justement là que Jean nous invite à faire un saut de plus et qu'il nous ouvre les yeux quand Jésus-Christ, tout ce qui est physique, peut avoir accès à ce que nous appelons la métaphysique tout en ayant un corps ici-bas. J'avais dit à notre groupe de lecteurs, ceux qui se forment une fois par mois chez nous, le groupe des lecteurs, une fois pendant notre formation, une fois que le culte, que nous faisons un culte, que nous rendons un culte à Dieu, ce n'est pas un culte pour faire plaisir à Dieu, ni pour attirer sa faveur, ce n'est pas cela. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'est que le reflet de la grande assemblée là-haut. C'est l'image de la fête qui nous attend, l'image de la louange céleste, l'image de l'allégresse dans l'au-delà. Et donc, quand nous faisons un culte, qu'est-ce qui rend unique et différent ce culte par rapport aux autres réunions dans le rassemblement du monde? Aujourd'hui, il se peut qu'il y a des gens qui se réunissent quelque part dans le parc ou dans une salle de fête. Ce qui rend unique le culte, chers frères et sœurs, c'est qu'à ce moment, le ciel et la terre s'embrassent dans le culte. Le visible et l'invisible se rejoignent. Et moi, j'y crois fermement. Que nous participons à cette assemblée céleste que nous ne voyons pas. Dans les formes symboliques d'église, par exemple les églises en Norvège, Scandinavie, quand vous venez à l'hôtel pendant la Sainte-Seine, ils ont un demi-cercle. Et ils ont expliqué pourquoi ce demi-cercle, c'est que c'est la communion des saints qui sont ici-bas, le cercle qu'on voit, et l'autre demi-cercle invisible, c'est la communion avec les saints qui sont déjà là-haut. Et c'est vraiment cela. Le culte, c'est ce culte de ceux qui sont ici et ceux qui sont là-haut. C'est ça qui rend le culte unique. Nous ne sommes pas là pour attirer la faveur de Dieu, nous sommes là pour participer au grand culte là-haut. C'est ça qui doit nous motiver à venir au culte. Nous allons être en communion avec tous les saints dans le monde et au-delà de ce monde. Les deux mondes alors sont réunis pendant le culte. Le divin, comme il a l'habitude depuis la création du monde, c'est lui qui vient. Ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient à notre rencontre. Et nous avons cru que c'est à nous de faire quelque chose pour que les cieux s'ouvrent. Non, c'est le ciel qui vient vers nous. C'est le ciel qui se penche vers nous et il veut nous donner sa bénédiction. Le ciel s'ouvre à nous et il vient à nous. C'est là l'union qui nous donne la paix. C'est ça qui nous donne la joie. Nous n'allons pas faire des chants, nous n'allons pas faire des activités pour que nous recevions la bénédiction de Dieu. Non, c'est Dieu qui vient vers nous et qui nous donne sa bénédiction. Donc cette union du divin à l'humain lors de la Sainte Cène n'est pas une chose nouvelle. Rappelez-vous, dès la nativité de Jésus, la problématique se posait déjà. Un Dieu immense qui s'incarne dans un corps d'un bébé. C'est nous qui avons toujours séparé le monde spirituel et le monde physique. Et même parfois, on les a mis dos à dos. Mais avec ce texte que nous avons aujourd'hui, nous pouvons que constater la confirmation de la parole de Jésus qui avait dit « Le royaume de Dieu est en vous et parmi vous. » L'image du pain et du vin parle de repas, n'est-ce pas ? Reprise encore par Jean lui-même dans son livre d'Apocalypse, où il est dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il y a une église chez nous, au fin fond d'un village, et la pratique de cette église-là, quand ils nous invitent à la fin du culte, il y a un repas communautaire, ils mettent toujours une assiette en plus. Et ça m'a intrigué, je dis, est-ce que je peux vous poser une question ? Je dis, est-ce qu'on attend encore quelqu'un ? Non, c'est fait exprès. Et j'ai posé la question à un des anciens, il dit, c'est une pédagogie pour enseigner à nos enfants et à nos paroissiens que Jésus est parmi nous, et il participe au repas. J'ai dit, waouh, c'est vrai. C'est qu'il est là. Souvent, on a mis toujours cette cloison, comme on dit, vous vous rappelez, quand on fait un culte ici, voilà, maintenant, la partie spirituelle est terminée, donc on met Jésus dans une boîte, dans une armoire, maintenant, c'est la partie festive, comme si Jésus ne participe pas, bon, toi, ça finit ta part, c'est à nous maintenant de nous amuser. Ce n'est pas ça. Il veut participer tout avec nous. Jésus avait dit une phrase qui va aussi dans ce sens. Nous, le Père et le Fils, viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.